Gracianopolis. Yvan Mazel, Rémi Vigneron, l'émission sur la métropole grenobloise, Radio Campus Grenoble 90.8. Bonjour à tous, bienvenue dans la deuxième émission de Gracianopolis sur Campus Grenoble 90.8. Pour animer cette émission avec moi, Rémi. Bonjour Rémi.
Bonjour Yvan.
Comme vous le savez déjà sûrement, Gracianopolis est une émission mensuelle d'information et de débat questionnant l'évolution de la métropole grenobloise. Rémi et moi-même sommes deux jeunes chercheurs au regard averti et curieux sur l'espace et le territoire. Après la première émission du mois d'octobre sur l'histoire de l'urbanisation de Grenoble, aujourd'hui on se penche sur la question de la mobilité dans l'agglomération en compagnie de Gabriel Jourdan de l'agence d'urbanisme de la région grenobloise. La question qui nous anime aujourd'hui est de savoir qui de l'agglomération ou des réseaux façonne le territoire. Pour cela, on dressera un portrait de l'agglomération en termes de transport, on cherchera à comprendre comment et où se déplacent les habitants de la région, on parlera ainsi des flux et des types de mobilité, des moyens de déplacement, des projets avortés et des restructurations des réseaux, et de la desserte par les transports en commun des périphéries. Mais avant cela, Rémi va revenir sur l'évolution des mobilités à Grenoble, du vélo au tramway en passant par la voiture.
On a aujourd'hui tendance à l'oublier, mais nos ancêtres se déplaçaient d'abord à pied et à cheval. C'est ensuite au 19e siècle que le vélo apparaît. À cette époque, près d'une personne sur trois l'utilise à Grenoble. Au début du 20e siècle, Antoine Bibou, un jeune entrepreneur isérois, se lance même dans la production de vélos. C'est dans le quartier de l'Île Verte que sont fabriqués les quelques modèles de la marque Liberia. Cette marque deviendra célèbre et exportera même plus de 500 VTT par semaine aux États-Unis pendant ses plus belles années. Aujourd'hui, il n'y a plus d'entreprise de fabrication locale et à peine 5% de la population grenobloise se déplace à vélo. Grenoble, c'est aussi la ville du tramway. À ses débuts, en 1894, le tramway grenoblois connaît un développement rapide. Deux lignes sont construites, une vers Bourdoisan et Jarry, puis l'autre vers Vars, puis Vif. Ces deux premières lignes sont équipées de locomotives à vapeur. La petite révolution grenobloise s'opère avec le développement de la ligne vers Chapareillan. Désormais, les tramways seront tractés grâce à une énergie locale, l'électricité. En tout, ce sont cinq lignes qui irriguent la vallée du Grésivaudan, la Chartreuse et le Vercors. Le tram est à son apogée entre 1920 et 1940. À partir de 1952 et pendant 35 ans, le tramway disparaît complètement du paysage grenoblois. Pour subvenir aux besoins d'un pays en guerre, les rails sont déposés et envoyés au front pendant la Seconde Guerre mondiale. Les finances de l'exploitant, la Société grenobloise de transport électrique, sont mal en point et le goudronnage plus soigneux des routes et avenues permet le développement fulgurant de la ville automobile. À partir de 1946, la société en charge des voies ferrées du Dauphiné remplace progressivement les anciens trajets du tramway par des autocars. En 1952, le dernier tramway circule entre Grenoble et Fontaine. L'après-guerre voit l'automobile se démocratiser. La voiture individuelle est l'outil magique qui répond aux différents enjeux d'une période de reconstruction où il faut produire du logement pour accueillir une population croissante. Les grands ensembles et les périphéries pavillonnaires commencent à se dessiner et la voiture répond aux besoins de mobilité individuelle. Ce sont les Trente Glorieuses. L'État bénéficie encore des créances du plan Marshall et construit ses premières autoroutes urbaines. À Grenoble, les Jeux Olympiques sont un accélérateur de ce modèle. À cette occasion, la ville se modernise, les avenues s'élargissent et la voiture devient le modèle dominant. En 1973, le premier choc pétrolier pousse à reconnaître l'automobile comme un problème. Les autoroutes urbaines sont victimes de leur succès. Les congestions sont de plus en plus fortes et les autocars englués dans le trafic ne sont plus rentables. C'est le début d'une nouvelle réflexion qui voit renaître le tramway. Cette nouvelle période pour les transports traduit une politique nationale des années 80 dont l'objectif est de fixer le principe du droit au transport pour tous et le principe du libre choix de l'usager entre les différents modes de transport. Dans ce but, les autorités organisatrices des transports urbains sont créées. À Grenoble, le syndicat mixte des transports en commun, le SMTC, prend ce rôle et repositionne le tramway au cœur des discussions. En 1983, suite à l'élection d'Alain Carignon, un référendum d'initiative locale est proposé aux Grenoblois. Le tramway l'emporte de peu et 6 mois plus tard, les travaux commencent. Depuis cette époque, le paysage des transports grenoblois s'est constamment élargi. Encore récemment avec la mise en circulation de la ligne E. Les dernières statistiques montrent que la part modale de l'automobile diminue, la marche et le vélo sont en constante augmentation et de nouveaux modes de transport en partage ou à la demande apparaissent en ville. Le débat sur le câble urbain renaît également avec le projet Giant pour connecter la presqu'île scientifique à Sassenage et Saint-Martin-de-Vinou.
Nous allons arriver au pont supérieur du cours de la Libération, qui est ouvert depuis 6-8 mois.
C'est les croisements un peu à l'américaine, ça.
Ah oui, tout à fait.
Et les deux autoroutes d'accès, ça facilite les choses ?
Très bien. Voreppe a fait un bon dégagement sur les petites communes qu'il y avait tout le long de la route. Malheureusement, les 14 km ne sont pas suffisants. La suite arrivera pas plus tard. On ne peut pas tout faire en 2 ans.
La création du tramway, fierté des Grenoblois, qui a profondément bouleversé non seulement les transports, mais tout le paysage urbain.
Le tramway a été réfléchi, pensé, envisagé, retenu et même pour une part projeté lors de la municipalité du Bedou par l'ancien syndicat intercommunal. Lorsqu'Alain Carignan est arrivé, il a fait un référendum, et c'est sur ces bases que son équipe a pu travailler et a pu achever le projet en le modifiant d'ailleurs sur tel ou tel point.
Pour clore ce papier sur l'historique des transports à Grenoble, on vient d'écouter 2 extraits d'archives, l'un sur la voiture en 1967 et l'autre sur le tramway en 1989. On va maintenant tenter d'y voir plus clair sur les mobilités actuelles dans la région et dans l'agglomération de Grenoble. Pour discuter avec nous de ce sujet aujourd'hui, Gabriel Jourdan, urbaniste, chargé d'études déplacement et urbanisme à l'AURG, l'agence d'urbanisme de la région grenobloise. Bonjour Gabriel.
Bonjour.
Pour commencer notre discussion, de quoi parle-t-on quand on veut comprendre la mobilité dans l'agglomération grenobloise ?
Ben, du coup, ce qui était intéressant là dans les papiers ou dans les deux archives, en fait, c'est les questions justement de mode et de périmètre. Et en fait, il faut vraiment avoir en tête que la mobilité dans la grande région grenobloise, en fait, donc ça se limite pas à Grenoble, ça se limite pas à l'agglo. Et il y a vraiment des flux très importants qui concernent un grand bassin de vie, qui est vraiment le bassin de vie et d'habitat finalement de Grenoble, mais qui s'étend jusqu'à 20, 30, 40 kilomètres de la ville-centre, en fait. Et ça, il faut vraiment avoir ça en tête, notamment par rapport aux différents extraits, aux différents papiers qui étaient pas mal centrés, du coup, sur Grenoble intramuros ou sur Grenoble et sa proche banlieue, en fait, avec le tramway notamment. Et du coup, là, ce titre-là, l'extrait sur les autoroutes était intéressant parce que c'est vraiment les autoroutes de dégagement, comme il disait à l'époque, qui ont permis, en fait, aussi aux gens d'aller vivre loin de la ville tout en continuant d'y travailler et qui ont fait que finalement le bassin de mobilité, il s'est vraiment élargi sur un périmètre très, très vaste. Alors, du coup, ce périmètre, en fait, il va de Saint-Marcellin à Grenoble et à Pontcharra. Il monte bien au nord de Voiron, il intègre le Trièves, il intègre une partie de la Matésine. Et en fait, c'est ce qu'on appelle la grande région grenobloise. Et donc, sur ce périmètre-là, il y a environ 2,9 millions de déplacements par jour en semaine réalisés par les habitants du territoire. Ça fait 3,6 déplacements par personne et par jour. Et du coup, sur le poids des modes, là aussi, hein, c'est 61% de ces déplacements. Ils se font en voiture ou en moto, enfin en voiture ou transport assimilé. Il y en a que 11% qui se font en transport en commun, même si après, c'est beaucoup plus, évidemment, dans la partie dense de l'agglomération. Et il y en a aussi 27% de ces déplacements qui se font à pied ou en vélo, donc notamment très largement à pied. Donc du coup, là aussi, sur les déplacements de courte distance, la marche et le vélo restent très prépondérantes.
Et donc, entre ces différentes zones de la grande région grenobloise, est-ce qu'on peut décrire différents types de flux et des profils de déplacement des habitants ?
Ben, du coup, justement, sur l'aspect des types de flux, ça, c'est une problématique vraiment intéressante. Il faut distinguer, en fait, il y a un peu 3 types de périmètres, finalement. Il y a donc Grenoble et sa proche banlieue, donc c'est un peu le cœur urbain dense de l'agglomération, c'est la cuvette, c'est un peu l'image qu'on a tous en tête, quoi, la zone très dense entre les montagnes. Et du coup, là, sur ce périmètre-là, en gros, il y a à peu près 1,3 million de déplacements par jour. Et là, c'est vraiment là que la voiture est la plus faible. Il n'y a que 45% de ces déplacements qui se font en voiture. Il y en a 38% qui se font à pied ou en vélo. Et le reste, c'est à peu près 17% de mémoire qui se font en transport en commun. Et ensuite, vous avez 320 000 déplacements par jour qui se font entre ce cœur dense et les autres territoires de la grande région grenobloise. Mmh. Et du coup, là, on a vraiment notamment tous les flux pendulaires des gens qui viennent du périurbain, finalement, pour aller travailler dans l'agglomération. Et ces flux, ils se font à 85% en voiture. Et avec d'ailleurs des taux d'occupation des voitures qui sont très très bas. On peut avoir sur les domiciles travail entre l'agglo et la périphérie, on a quasiment une personne par voiture, à peine plus, aux heures de pointe. Et donc, c'est 85% en voiture, et le reste, en gros, ça se fait en transport en commun. Et puis, vous avez ensuite, quand vous êtes vraiment dans le périurbain, en dehors de la zone dense de l'agglo, vous avez aussi des déplacements, mais qui restent plutôt très locaux, en fait, plutôt internes aux communes, finalement, et qui sont plutôt des déplacements de proximité.
On a bien compris que donc ces différents périmètres, ils correspondent rarement à des entités administratives qui gèrent les transports. Quelles difficultés cela crée pour le développement justement de ces moyens de déplacement ?
Donc finalement il y a un périmètre. Ça dépend des modes en fait finalement. Si vous prenez la route, en gros les axes structurants c'est les autoroutes qui sont gérées soit par l'État. Soit par les concessionnaires privés, mais qui dépendent aussi indirectement de l'État, vu qu'ils sont liés avec l'État par une concession. Donc là, en fait, on a un gestionnaire relativement homogène. Les routes départementales, pareil, ça dépend du département. Donc là, on va dire que c'est géré à l'échelle du grand périmètre. Par contre, là où le bât blesse, c'est sur les transports en commun, où là, en fait, vous avez 5 réseaux qui desservent la grande région grenobloise. Vous avez les autocars donc du Conseil Général Transisère, vous avez le train avec la région, donc c'est les TER, et puis vous avez après les réseaux de transport urbain, donc avec le SMTC qui gère le réseau, qui est autorité organisatrice du réseau Semitag, puis vous avez un réseau dans le Grésivaudan et un réseau dans le Voironnais. Et du coup, pour l'usager des transports en commun, là c'est clair que le fait qu'il y ait 5 réseaux avec 5 systèmes de tarification, 5 systèmes de fiches horaires et 5 systèmes d'information finalement, même s'il y a des efforts d'harmonisation, ça ne facilite pas du tout la vie, notamment quand on n'est pas habitué au transport en commun.
Merci Gabriel Jourdan pour ces premiers éléments de réponse.
On écoute tout de suite une interview de Hans van Eybergen, directeur du SMTC, responsable pour les transports en commun dans l'agglomération grenobloise.
On a la chance d'être une des agglomérations de pointe dans le domaine des transports en commun. La deuxième agglomération française à réintroduire le tramway français moderne, qui est une référence européenne. Beaucoup de villes françaises, d'ailleurs beaucoup de villes européennes, nous ont suivis dans ce domaine-là. Il est important de prendre en compte l'environnement de la ville, avec notamment les 3 massifs de montagne, qui empêchent donc tout développement circulaire de l'urbanisation et qui poussent donc les gens dans les vallées. Donc on a plus vite que d'autres les problèmes de distance, les problèmes d'éloignement. Et nous avons notamment un projet en direction du sud, en direction de Visil. Et ce projet va être à l'étude dans les tout prochains jours, a déjà été étudié, donc on est plus dans une phase d'actualisation des études, pour regarder la pertinence d'un tram-train qui desservirait donc le sud de l'agglomération à partir de Pont-de-Claix en direction de Champs-sur-Drac, Jarry, Visil, qui offre un bon potentiel et qui permettrait d'une part une desserte cadencée quotidienne avec l'agglomération pour une zone encore relativement peu dense. Donc, il permettrait ensuite aussi de développer ce secteur qui a encore une capacité importante de construction de logements.
Gabriel Jourdan, si l'on prend du recul un peu par rapport à cette interview, quels sont ces enjeux de mobilité dans les espaces périurbains ?
Du coup, sur la périphérie, en fait, il faut aussi distinguer la périphérie qui est inclue dans la métro, notamment avec l'extension du périmètre de la métro au 1er janvier 2014, donc qui inclut le sud grenoblois dont parlait Hans. Et puis le périurbain finalement qui n'est pas inclus dans le périmètre de la métro, donc notamment voilà le Grésivaudan, le Voironnais, les territoires plus lointains comme la Bièvre ou comme le Trièves. Alors après, les enjeux de mobilité c'est les mêmes à chaque fois, c'est-à-dire que c'est à la fois la gestion de ces flux pendulaires massifs vers le cœur de l'agglomération où se concentrent encore très largement les emplois, les établissements d'enseignement supérieur, etc., ou les grands équipements ou les commerces. Et puis la gestion après des flux plus de proximité finalement dans les communes périurbaines ou à l'échelle des bassins de vie périurbains, mais qui sont des déplacements plus, on va dire, plus modestes en nombre, mais qui peuvent plus reposer sur la marche ou sur le vélo. Donc après, on va dire que sur l'aspect flux vers le cœur d'agglo, c'est vraiment ces flux-là qui sont les plus problématiques en termes de, à la fois de distance parcourue, parce qu'ils pèsent beaucoup en distance, ils se font à 85% en voiture, ils pèsent aussi beaucoup sur la congestion, ils pèsent beaucoup du coup sur les émissions de gaz à effet de serre, sur la pollution, etc. Et donc là, il y a un vrai enjeu finalement d'arriver à limiter le nombre de véhicules en fait sur ces déplacements.
Mais comme la configuration géographique de l'agglomération et de sa région s'inscrit dans les trois vallées du Y grenoblois, est-ce que ce ne serait pas un avantage pour la desserte par transport en commun ?
C'est un avantage dans le sens où, bah oui, c'est vrai que du coup, les gens sont globalement assez proches d'une gare ou d'un axe lourd de transport en commun. Après, c'est également un inconvénient dans le sens où ça induit une très forte concentration des flux, notamment automobiles, mais aussi transport en commun, sur un nombre limité d'axes. Et du coup, ça explique aussi tous les problèmes ou une partie des problèmes de congestion qu'on a sur les autoroutes. Mais on a aussi des problèmes de congestion, par exemple, dans les trains. C'est-à-dire que si vous prenez le train le matin, notamment en provenance du Voironnais ou autre, les rames sont très très chargées globalement et c'est compliqué aussi de mettre plus de trains aux heures de pointe. Donc du coup, c'est vrai qu'il y a vraiment cet enjeu vraiment d'aller limiter le nombre de véhicules et donc d'inciter les gens, on va dire, à laisser leur voiture. Mais ça peut être aussi du coup en se regroupant dans les voitures. Il n'y a pas que l'aspect transport en commun, notamment parce qu'on est sur des systèmes où la finance publique est très limitée et le coût des transports est quand même élevé du coup. Donc il y a vraiment des enjeux là aussi d'optimisation et puis de maîtrise des coûts publics en fait.
Merci pour ces explications. On va passer à une petite pause.
1, 2, 3 et... Vélo va, vélo vole. La voie va où vélo va. Vélo vire, vélo volte. Où va la vie, vélo va. Belle voiture, beau camion, beau véhicule à locomotion, beau wagon, belle station, beau train à très grande vision, bel avion, belle fusée, belle station espacionnée, belle colcose de spationose. Bel espace de cosmos rose. Vélo va, vélo vole. La voie va où vélo va. Vélo vire, vélo volte. Où va la vie, vélo va. Belle moto, beau mécano. Spider-Man, Superman. Belle bécane à arbre à cam, turbochrome d'échappement. Vélo va, vélo vole, la voie va. Vélo va, vélo vire, vélo volte. Où va la vie, vélo va. Rien ne vaut le pédalo avec pédale et avec son zoo.
C'était Dika Nogarn avec Vélo Vol. Vous êtes toujours sur Campus Grenoble 90.8 et vous écoutez la deuxième émission de Gracianopolis.
Gabriel Jourdan de l'AURG est toujours en notre compagnie pour décrypter les enjeux liés à la mobilité et au transport dans la région grenobloise. On a bien compris avant la pause musicale que pour les transports en commun, d'ailleurs pour également les autres domaines, l'investissement public est en diminution. Néanmoins, quelles améliorations peuvent être mises en place à moyen constant ?
Mais là, il y a vraiment un enjeu aussi d'articuler le transport et l'urbanisme également sur cette thématique-là, en fait. C'est-à-dire que les problèmes de transport dont on souffre, c'est également le fait finalement, quand on a fait les autoroutes, quand les gens sont équipés en voiture, ils ont pu s'éloigner de la ville, et du coup, en contrepartie, ils se déplacent. Et à un moment, il y a aussi, pour réduire à la source les besoins de déplacement, il y a vraiment un enjeu de réarticuler un peu mieux, on va dire, les emplois, l'habitat, les services, les commerces et les systèmes de déplacement. Mais ça peut marcher qu'à très long terme. Et il y a des stratégies qui se mettent en place à ce niveau-là, comme le contrat d'axe, par exemple, autour de la ligne E pour densifier autour du tram, par exemple. Et puis après, sur les transports en eux-mêmes, il y a vraiment des leviers qui coûtent pas cher. Par exemple, il y a tout ce qui s'est passé autour des réseaux de bus avec les lignes chrono, par exemple, qui ont été mis en place au 1er septembre. C'est-à-dire que du coup, on essaye de mettre en place des lignes de bus qui ont des fréquences et des niveaux de service proches du tram. Mais du coup, on reste quand même sur un coût de bus, et notamment en termes d'investissement, ça coûte peut-être 10 ou 20 fois moins cher, du coup. Il y a également tout ce qui est promotion du covoiturage, où là j'en parlais tout à l'heure, mais c'est vraiment un levier qui potentiellement pourrait être majeur. Quand vous savez par exemple sur les déplacements domicile-travail entre l'agglo et le Grésivaudan, vous avez en moyenne 1,02 personnes par voiture. Et l'autoroute est saturée, donc si on se dit ne serait-ce qu'il y aurait 2 personnes par voiture par exemple, bon c'est peut-être un peu un rêve, mais on pourrait très vite limiter le trafic avec des coûts faibles quoi finalement. Et tout ça, il faut vraiment insister aussi sur l'aspect aider les gens à changer leur comportement. Donc du coup aussi tout ce qui est aider les gens à s'organiser, communiquer, faire presque du marketing en fait autour des nouveaux comportements de mobilité.
Et ces changements au niveau des modes de déplacement, l'articulation entre eux, est-ce que ça ne nécessite pas des nouveaux aménagements, des nouveaux équipements, des nouveaux lieux ?
Ben, il y a surtout des enjeux. Alors je sais que c'est en train de... Il y a des réflexions et même des négociations qui se mettent en place entre les différentes collectivités territoriales pour ça. Hein. L'idée, l'enjeu majeur, en fait, ce serait d'aller vers un système qui soit intégré pour l'usager, c'est-à-dire comme ça s'est passé autour de Lyon. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont mis en place un système où pour l'usager, progressivement, pour lui, il a la vision qu'il y a un seul réseau. Et globalement, enfin, c'est aussi le modèle de l'Île-de-France, finalement, l'idéal, ça serait qu'il y ait un même ticket, un même support d'information, un même plan qui intègre tous les réseaux. Et ensuite, c'est presque ça le principal pour créer le déclic. Et ensuite, c'est clair qu'évidemment, il y a des nœuds où il faudrait améliorer les aménagements pour faciliter les correspondances entre des lignes de tram, des lignes de bus, le train, le car. Il y aurait peut-être des enjeux aussi de développer des parkings de rabattement sur les transports en commun en périphérie, notamment dans le sud de l'agglomération, dans le Grésivaudan, entre autres, ou dans le Voironnais également. Les parkings de covoiturage également, là, c'est clairement un enjeu d'en développer, mais vraiment là, à l'échelle de la grande région grenobloise. On pourrait aussi imaginer, alors là, pareil, c'est peut-être un rêve, mais... qui est des systèmes de métro-vélo, par exemple, dans toutes les gares de la grande région grenobloise, par exemple. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens, par exemple, qui prennent le vélo dans le train, ne serait-ce que pour aller travailler, par exemple, à Centralpe. Et s'ils avaient sur place un système où ils pourraient louer des vélos, déposer des vélos et tout ça, ils auraient peut-être plus besoin de le faire. Et ça faciliterait aussi considérablement la vie et la possibilité de passer d'un mode à l'autre, en fait.
On vient donc de voir les différentes améliorations qu'il pourrait avoir pour la mobilité des Grenoblois. Depuis longtemps à Grenoble, on parle de projets de transport par câble.
On écoute donc tout de suite Léo Tomasi, géographe, doctorant en architecture sur l'articulation entre les transports urbains par câble et les projets urbains.
Lorsque l'on parle de transport par câble à Grenoble, on pense d'abord aux œufs qui montent à la Bastille. Cet équipement a été inauguré en 1934. L'objectif de ce téléphérique urbain était de doter la capitale des Alpes françaises d'un attrait de premier ordre afin de valoriser le tourisme de montagne. Aujourd'hui, c'est environ 300 000 passagers par an qui empruntent ce mode de transport. À ce jour, aucune autre liaison par câble n'a été réalisée à Grenoble. Pourtant, de nombreux projets ont été proposés sur l'agglomération. Le plus significatif et le plus connu de tous reste sans doute celui du POMA 2000. Dans les années 70, certains élus avaient imaginé un transport par câble en site propre pour relier les principaux pôles urbains de la région. Une voie de circulation aérienne où les cabines du POMA 2000 devaient circuler sur des estacades maintenues par des portiques. L'immeuble situé tout au bout de la rue Hébert, juste derrière la préfecture, garde encore les stigmates de ce projet, avec une percée à hauteur au deuxième étage qui devait permettre le passage des cabines. Finalement, le tramway moderne a été retenu plutôt que ce mode de transport jugé trop futuriste. Ce que le POMA 2000 se propose de faire, le tramway peut le faire également, et ce, sans souci d'insertion paysagère et en ayant un impact plus dissuasif sur la voiture. Aujourd'hui encore, plusieurs projets de transport urbain par câble sont discutés, notamment la liaison entre Grenoble et le plateau du Vercors, qui semble abandonné, ou encore le projet, toujours à l'étude à l'heure où nous parlons, d'un téléphérique urbain entre Fontaine-la-Poya et Saint-Martin-le-Vinou. Cet axe a pour vocation de desservir la nouvelle centralité qu'est le quartier de la Presqu'île. Bien que plusieurs réalisations existent à l'étranger, à Medellin, à La Paz ou bien encore à New York, le câble en milieu urbain n'existe pas réellement en France. L'avantage numéro 1 d'un câble repose dans sa capacité à franchir aisément et à moindre coût les obstacles. Ainsi, la région grenobloise a, à mon avis, toutes les cartes en main pour développer un jour un téléphérique urbain pertinent.
Après cette chronique sur le transport par câble, intéressons-nous plus précisément au projet de liaison par câble vers le Vercors. Quelles ont été les raisons qui ont fait avorter ce projet ?
Alors moi j'ai un peu un devoir de réserve, donc je ne vais pas pouvoir trop vous dire de choses là-dessus. Peut-être quand même ce qu'on peut avoir en tête, c'est que sur les 320 000 déplacements là, entre le cœur d'agglomération et la périphérie, il n'y en a que 10 000 qui se font entre le Vercors et l'agglo en fait. Hein. Donc du coup, les besoins de déplacement finalement sont assez limités. Alors là on parle des déplacements quotidiens. Il y a bien sûr les déplacements touristiques, on peut aller jusqu'à 22 000 véhicules jour sur les routes d'accès au Vercors en hyper pointe de saison d'hiver. Mais globalement, on est quand même sur des flux de déplacements qui sont relativement modestes. Et puis après, si on regarde un peu les enseignements de la concertation publique qu'il y a eu sur le projet l'an dernier, ça a quand même fait ressortir qu'il y avait beaucoup de besoins de déplacements qui n'allaient pas être couverts par le câble. Par exemple, beaucoup de gens s'inquiétaient de dire bah, « Ok, on peut aller, on arrive en câble, mettons, à Lens en Vercors, mais ensuite, comment on fait pour aller dans les autres villages et villes du plateau, par exemple ?» Et puis, il y avait aussi des craintes sur les aspects développement territorial. C'est-à-dire qu'il y avait aussi des opposants en câble qui disaient ben, « si on développe ce système de transport qui va être très performant, est-ce qu'il n'y a pas un risque que le Vercors soit un peu submergé par le tourisme ou par la périurbanisation ?» Et du coup, finalement, ça illustre aussi tout ce lien entre le transport et l'aménagement du territoire. Et du coup, vraiment, l'enjeu, finalement, avant de penser système de transport, de penser vraiment stratégie territoriale globale. Et ensuite, c'est sur la base du projet de territoire, finalement, qu'on peut ensuite réfléchir à des solutions de mobilité. Et pas l'inverse, quoi.
On commence donc maintenant à avoir une idée plus précise des enjeux liés aux déplacements au sein de l'agglomération et de la région. Comment vous jugez la structuration des lignes du Conseil Général au 1er septembre ?
C'est quand même curieux que la 6020, c'est la ligne structurante du réseau 36R, c'est la ligne la plus fréquentée, et c'est celle-là qu'on décide de sabrer en premier. Et ben, le Conseil Général, s'il voulait que les gens reprennent leur voiture, il ne s'y prendrait pas autrement, c'est-à-dire qu'en amputant la ligne de la partie grenobloise et de la partie sur Crawl. Donc la conséquence, ça va être que 30% des clients vont reprendre leur voiture. Donc on aura moins de bus à Grenoble et plus de voitures. Donc on a du mal à concevoir la cohérence du projet.
Comment on fait pour ramener la bicyclette dans la ville ?
Eh bien, c'est très simple, ramener la bicyclette, on fait comme quand on fait la même chose qu'on a fait pour ramener la voiture en ville. C'est-à-dire que... Il faut supprimer de la place pour la voiture pour amener le vélo, hein, puisque c'est en multipliant la place pour la voiture qu'on a chassé le vélo. Donc il faut faire l'opération inverse, déjà. Il faut avoir des aménagements sécurisés, plus de place pour les vélos, pour les piétons, et moins pour la voiture en centre-ville. Et après, pour que les périurbains puissent rejoindre le centre-ville, il faut créer des axes cyclables rapides, sécurisés, entretenus, pour qu'ils aient plaisir à rejoindre le centre-ville.
Comment vous portez la parole habitante, dans quel organisme cela se passe ?
Eh bien, comme on est association représentative d'usagers, on siège pour le transport en commun en comité de ligne, que ce soit Transiser, SMITAG ou SNCF. Après, au niveau vélo, on participe avec la ville de Grenoble. Quand il y a un projet sur la ville de Grenoble, on essaye de donner un avis d'usager. Et puis, quand on n'est pas d'accord, on organise des manifestations, des petites réunions de contestation.
C'était donc Philippe Zanola de l'ADTC, l'Association pour le développement des transports en commun, qui exprimait le point de vue de son association d'usagers forte de plus de 1000 adhérents.
En réaction à cette interview, comment s'organise une politique de transport au plus près des besoins réels et des habitants ?
Donc là, en fait, il faut distinguer un peu suivant les niveaux de politique de transport, en fait. Donc en fait, vous avez trois niveaux. Vous avez un niveau qui est la planification générale des déplacements. Donc là, c'est notamment le plan de déplacement urbain, là, qui est par exemple l'état d'étude sur l'agglomération. Donc là, il y a eu beaucoup de dispositifs de concertation, notamment il y a eu un comité citoyen, il y a eu des cafés citoyens pour rencontrer les habitants, il y a eu pas mal de concertations publiques. Mais là, du coup, on discute un peu des grandes options d'organisation des déplacements sur le territoire. Ensuite, vous avez, quand vous descendez au niveau de l'infrastructure de transport en elle-même, par exemple une ligne de tramway, là vous avez vraiment des étapes obligatoires là qui sont très codifiées par la loi, notamment une étape de concertation publique préalable en amont du projet. C'est-à-dire que du coup, le maître d'ouvrage il va proposer un peu une première version du projet, mais qui est encore évolutive. Et du coup, sur cette base-là, le public va être consulté avec des réunions publiques, des possibilités de déposer des réactions sur Internet ou sur des registres et tout ça. Et du coup, là, c'est suite à ça que le maître d'ouvrage va pouvoir faire évoluer son projet. Donc c'est ce qui s'est passé, par exemple, pour le câble du Vercors, en fait. Et ensuite, quand vous êtes sur l'aspect offre de transport en tant que tel, comme l'exemple de la ligne 6020 ou l'exemple des lignes de bus ou de l'offre de transport au quotidien. Là, il y a moins de dispositifs qui sont prévus par la loi. Par contre, c'est vrai que de plus en plus, les autorités organisatrices prévoient ce qu'on appelle des comités de ligne, qui du coup servent à consulter les usagers. Mais c'est vrai que là aussi, il y a quand même des très fortes contraintes économiques également en lien avec le coût du transport et puis la situation des finances publiques. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que par exemple sur le réseau TAG, l'usager, alors de mémoire, je crois qu'il ne paye que 16% du coût total, de la dépense totale pour le réseau TAG, investissement compris évidemment. Mais vous voyez que du coup, les contraintes économiques, elles sont quand même majeures. Et les finances, elles ne sont pas extensibles. Donc du coup, là aussi, ça, c'est un point à prendre en compte.
On comprend bien les difficultés de mettre en place les transports et de prendre en compte tous les besoins de déplacement d'une agglomération. Merci pour ces explications.
Afin de conclure cette discussion sur la mobilité, on a demandé aux habitants de l'agglomération quel était leur mode de transport préféré et pourquoi. Écoutons-les tout de suite.
J'utilise la voiture parce que je dépose ma fille à l'école, je fais un détour et ensuite j'arrive à mon bureau.
Le vélo, bien sûr, parce que les transports en commun, c'est pas drôle à cause du monde et voilà, j'aime pas spécialement les transports en commun. Et la voiture, quand on habite en centre-ville, c'est hors de question.
Mon épouse qui est malvoyante, elle aime bien les transports, mais il faut un accompagnateur, Smitag.
Le vélo, c'est plus rapide, c'est plus pratique, ça fait bouger, voilà.
Je fais tout à pied, d'une maison à une autre. D'accord. Je ne prends jamais de transport en commun pour aller au travail. J'ai une voiture aussi que j'utilise très rarement, mais bien deux fois par semaine à peu près, quand je fais des courses. Mais sinon, je la laisse au garage, la voiture.
Je vais en voir en bus. Je paye 200 euros à l'année et j'ai les bus en illimité. Donc dans toute l'agglomération grenobloise.
Moi je suis tout le temps à pied, ça fait du sport et puis c'est écologique quoi, enfin, ça pollue pas.
Gabriel Jourdan, pour terminer cette émission sur une touche plus légère, une dernière question que l'on pose à chaque invité de Gracianopolis. Qu'est-ce que pour vous la métropole grenobloise ?
La métropole grenobloise, du coup, c'est clairement le grand bassin de vie, c'est clairement la grande région grenobloise, ça ne se limite pas à Grenoble et à sa proche banlieue. Après, c'est aussi un territoire qui, je trouve, qui a un grand dynamisme finalement, économique, scientifique, ça tout le monde le sait. Mais je trouve aussi qu'il y a un très grand dynamisme culturel, et y compris sur des cultures un peu alternatives. Et ça, je trouve que c'est assez rare et c'est assez précieux pour le territoire en fait finalement. Et je trouve qu'il y a c'est un véritable melting pot aussi ce territoire. Il y a une diversité de populations. Je trouve qu'on trouve. Peut-être qu'on trouve peu ailleurs en France, parce que j'ai fait pas mal de villes, et c'est vrai que c'est un Grenoble, pour ça, c'est assez attachant.
Merci Gabriel Jourdan d'être venu aujourd'hui. Merci à notre invité d'être venu pour cette deuxième émission et d'avoir accepté de partager sa connaissance de la région grenobloise. On tient à remercier Hans van Eybergen et Philippe Zanola d'avoir répondu à nos questions, Camilla Tabaka pour ses précieux conseils, et Léo Tomasi pour son papier sur le transport urbain par câble. Merci également à toutes les personnes que nous avons rencontrées pour le micro-trottoir et qui ont accepté de jouer le jeu. C'était Gracianopolis avec Thomas comme aide à la technique. Merci de nous avoir suivis et on vous retrouve avec Rémi en décembre pour la prochaine émission sur Campus Grenoble 90.8.
À bientôt.
Et merci.
Merci à vous.